Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC jusqu'à minuit avec le lancement de la première journée de Ligue 2. Quel bonheur de retrouver ce championnat. 9 matchs au programme. On vous rappelle qu'il y a des affiches historiques entre Sochaux et Saint-Etienne, entre Nantes et le Red Star, entre Clermont et Reims, entre Metz et Guingamp. On sera évidemment partout. On suivra l'intégralité de ces 9 rencontres. On va aller pour débuter cette soirée de Ligue 2. Messieurs, vous avez le choix, soit la Beaujoire, soit Bonal. Vous choisissez Bonal. Nous partons à Bonal. On rappelle que le match est à guichet fermé. Sochaux qui retrouve la Ligue 2 après avoir passé 3 saisons en National. On est avec toi, mon cher Sébastien Ruffet. Le coup d'envoi est imminent. Sochaux-Saint-Etienne, un match populaire, un match historique.
Ah oui, c'est une ambiance exceptionnelle avec feu d'artifice, fumigène de tous les côtés. On a juste pas enlevé les petits panneaux Ligue 2 là, de côté là, messieurs, s'il vous plaît, pour pouvoir commencer. C'est assez cocasse. Là, on se regarde du côté des coachs et du délégué parce que les jeunes, ils sont partis.
C'est
sans enlever le petit carton Ligue 2 BKT sur le côté. On devait être retardé de quelques secondes, mais c'est vrai que l'ambiance, elle est exceptionnelle. Tout le stade est debout, tout le monde chante. Il y a les supporters de Saint-Etienne là-bas qui font un boucan pas possible. Et c'est la plus belle des façons pour lancer cette Ligue 2, même si j'entends qu'effectivement, chez mes petits camarades, c'est parti ailleurs et on est encore en train d'enlever ce carton. Mais enlevez-moi ça, qu'on puisse démarrer cette Ligue 2 ici à Bonal, parce que c'est voilà, des années d'attente maintenant qui vont être délivrées avec ces verts de Saint-Etienne qui vont donner le coup d'envoi. Irvine Cardona, voilà, l'arbitre va pouvoir donner le coup d'envoi. C'est parti, la Ligue 2 est de retour au stade Bonal pour cette affiche entre Sochaux et Saint-Etienne. Le ballon dans les pieds des Stéphanois pour débuter.
L'ambiance magnifique à Bonal. On est tout de suite à Nantes également avec toi, David. C'est parti.
C'est pas tout à fait la même ambiance ici, hein. Je vous rappelle
c'est
que le match se joue à huis clos. J'ai l'impression de revenir 5-6 ans en arrière, période du Covid. Hein. C'est vraiment terrible de démarrer pour le FC Nantes, de démarrer dans ce stade vide. Le coup d'envoi qui a été donné donc il y a quelques instants, il y a une minute maintenant, et ce sont les joueurs du Red Star qui sont à l'attaque sur le côté gauche avec Durand qui va peut-être repiquer dans l'axe, mais c'est bien défendu de la part de Gilbert, le nouveau capitaine du FC Nantes. Je vous disais, donc match à huis clos en raison des sanctions prises par la Ligue après l'envahissement de la pelouse lors de la dernière journée. C'était un Nantes-Toulouse. Et donc le stade sera à huis clos sur cette première journée et la tribune Loire sera fermée les deux prochaines journées. Voilà, 0-0 après 1 minute 30 ici à la Beaujoire.
C'est parti à mon pied, Clermont-Reims, Damien Tardieu.
Oui, 1 minute 25, 0-0 entre les deux équipes. En termes d'ambiance, c'est plutôt calme ici à Clermont. Tout le monde n'est pas revenu de vacances. Il y a cette tribune, on le disait tout à l'heure, qui n'est pas encore construite. Évidemment, ça n'aide pas à donner une ambiance magnifique. Et puis les dernières performances de Clermont n'incitent pas forcément à l'optimisme et à venir faire le déplacement. Ici au Montpied, possession rémoise en ce début de partie, on le disait, avec des recrues qui sont alignées. Le gardien Hulsmann, Guindo, l'ancien joueur de Brest notamment, El Kachati ou encore Soumano. Côté Rémois, attention contre Clermontois, mais ça va être coupé par la défense rémoise. 2 minutes au Montpied, 0-0.
On est en Lorraine, à Metz, oui, avec Patrick Muller, Metz-Guingamp.
C'est parti depuis 2 minutes maintenant, 0-0 bien sûr. Et en termes d'ambiance, bon, on va pas trop se plaindre, hein, puisque les ultras sont de retour. Ils s'étaient mis en sommeil en fin de saison passée. Ils ont fait donc leur retour dans les travées du Stade Saint-Symphorien, qui est plutôt correctement garni en ce début du mois d'août. C'est pas un rythme fou pour l'instant dans ce début de rencontre, mais on est curieux de suivre une des curiosités du côté du FC Metz. C'est Pape Moussa Fall, l'attaquant qui avait été prêté ces deux dernières années, et notamment la saison passée du côté de la Louvière avec 11 buts inscrits. Il y avait un intérêt d'un certain nombre de clubs le concernant, et donc il sera à la pointe de l'attaque et ce sera le leader offensif pour Luc Holtz, qui a relégué sur le banc un certain Habib Diallo. Moins de 3 minutes et 0-0 entre Metz et Guingamp. Légère domination du FC Metz.
Et les 5 autres rencontres sont à suivre avec Antoine Brard. Bonsoir Antoine.
Salut à tous. Oui, alors avec un premier match Montpellier-Rodez, Montpellier qui forcément va vouloir rebondir après sa saison dernière un peu ratée, une 8e place. Les Montpellierains qui visent clairement mieux, c'est les mots de Zoumana Camara cette semaine en conférence de presse. Il n'y a plus TJ Savani qui a quitté Montpellier, mais qui voilà, il y a quand même de l'expérience avec Julien Laporte notamment. En face, on aura donc des Dijonais qui retrouvent la Ligue 2 après 3 ans passés en National. On espère que ça ira pour eux, ça va être compliqué, ils visent le maintien. Ensuite, autre rencontre, on a Boulogne, pardon, face à Nancy. Deux équipes qui l'année dernière s'étaient sauvées. 4 minutes de jeu, toujours 0-0. Ils s'étaient sauvés en fin de saison, donc certainement un objectif de maintien. Également Pau, Annecy, deux équipes voilà, qui l'année dernière avaient joué le haut tableau, le milieu de tableau, 7e, 9e place. À voir le côté prometteur, sachant qu'Annecy a été racheté hein, cet été par Aston Villa. Donc à voir ce que ça donne. On a également Rodez Laval, Rodez qui n'était passé pas très loin hein, de battre Saint-Etienne l'année dernière en play-off et de jouer les play-offs, enfin, les barrages face à Nice. Malheureusement, ce n'était pas passé pour les Ruthénois. Et dernière rencontre, Dunkerque-Grenoble, 4 minutes de jeu, 0-0 sur l'ensemble de ces 5 terrains.
Merci beaucoup. On retourne à Bonal, on le rappelle. Sochaux qui retrouve la Ligue 2, Sochaux opposé à Saint-Etienne. Sébastien.
Avec une très légère domination pour l'instant après 4 minutes des Stéphanois qui font un petit peu tourner ce ballon. J'essaie d'observer un petit peu le dispositif tactique. On a une forme de 4-4-2 mais avec deux joueurs sur les côtés, Boaki et Brahim, qui ont tendance à venir rentrer vraiment à l'intérieur un peu en soutien des deux attaquants. Ça permute un petit peu, on va chercher une fois le côté, une fois l'intérieur. Donc ça demande pas mal de mouvement du côté des Stéphanois. Il va falloir que les Sochaliens soient très attentifs à ces déplacements là vers l'intérieur, puisque ça ramène un petit surnombre, notamment dans la zone de Julien Masson et de Victor Lobry au milieu. Le ballon sur le côté droit avec Bois qui va essayer de combiner avec Cardona, mais bonne sortie là de Ngata qui oblige à jouer vers l'arrière. On a vu une première tentative de Jacob Brahim là qui était au 16 mètres, un petit crochet, un deuxième, et puis sa frappe ensuite a été contrée. Mais voilà, il va falloir faire attention à ce joueur qui a le numéro 10 dans le dos. Voilà, un joueur de Saint-Etienne en vert comme ça avec un numéro 10, forcément on se méfie toujours. On joue depuis pas tout à fait 5 minutes ici et toujours 0-0 dans la superbe ambiance de Bonal entre Sochaux et Saint-Etienne.
Nantes face au Red Star, David Philippot, est-ce qu'il y a une belle accolade entre Michel Desartes Carillon et son ancien capitaine
Karine, oh. En tout cas je les vois, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai qu'ils sont côte à côte,
David.
C'est peut-être ça mon problème. non mais là ils sont côte à côte hein. Devant leur banc tous les deux, ils haranguent leurs joueurs. 6 minutes de jeu ici à la Beaujoire, 0-0, une première situation chaude, enfin non, une situation on va dire pour les Canaries, une tête de Perrin sur un corner de Tabibou, une tête directement dans les bras de Poussin. Mais depuis 6 minutes ce sont les joueurs du Red Star hein, qui monopolise le ballon. Encore peut-être Durand qui est lancé sur le côté gauche, le bon geste défensif de la surprise de la compo de Michel Derzakarian, c'est-à-dire Hugo Lamy titulaire au poste de piston droit, et ça sera donc à corner à suivre pour les joueurs de Damien Perrinel. Est-ce que tu veux qu'on le suive? 6 minutes 13
bien
de jeu
sûr
à la Beaujoire. On va le suivre de la gauche vers la droite lorsqu'on regarde la cage de Maxime Dupé. C'est Kawi, oui c'est ça il me semble, qui va le lancer, numéro 7, c'est Durand qui va frapper ce corner, donc ça sera pour le droitier, donc ça va être rentrant ce premier corner pour les joueurs du Red Star. Il est frappé directement et c'est dégagé de la tête par Lucas Perrin, c'est repris derrière peut-être par Magnin qui peut écarter. On en reste à 0-0, 7 minutes de jeu ici à la Beaujoire entre Nantes et le Red Star.
David, Hugo Lamy, tu disais c'est une surprise qu'il soit titulaire?
Ah oui, complètement. Alors il a joué un petit peu en prépa, Hugo Lamy, mais c'était un joueur de l'équipe réserve la saison dernière. Il a été formé du côté du PSG, centre de formation du PSG, de 2017 à 2023. Et c'est vrai qu'il a pas de, il y a pas de piston gauche, on le disait tout à l'heure, mais également sur le flanc droit. Alors il y a Gilbert qui peut jouer à ce poste, mais là il est plutôt placé axe droit. Frédéric Gilbert, le nouveau capitaine du FC Nantes. La surprise, c'est Amiens finalement qui est sur le banc de touche. Ça veut vraiment dire
quel était son dernier club, Hugo Lamy, avant le FC Nantes.
Il n'a pas joué en Suisse. Non, Lusitanos, ouais. Pardon.
Oui, d'accord.
C'est ça, exactement. Mais il a joué en Suisse un petit peu avant, en pro.
Il a surtout joué en Lusitanos, sa mort.
Effectivement, 0-0.
D'ailleurs, s'il est revendu, ça pourrait m'arranger.
Ah, tu as une petite plus-value, en éventuellement effet,
en donc, tu le connais bien, Kevin.
Non, plus-value.
Tu le connais très bien, du coup, Hugo.
Ah ouais, non, bah Hugo, il est venu chez nous, il est resté 6 mois chez nous, l'année où on monte de National 3 à National 2. Et ensuite, il avait choisi de rejoindre la réserve du FC Nantes. Donc, du coup, bah, il a attendu un an sa chance, mais là, je suis content pour lui. C'est un joueur qui est très travailleur, qui est bien formé et qui est un grand professionnel, malgré le fait qu'il n'est pas encore, que je crois que c'est peut-être son premier match, son deuxième match. Il a peut-être fait un match avec le PSG. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur et je pense qu'il n'est pas loin d'avoir le niveau de jouer en Ligue 2.
Eh bien, on va voir ça ce soir pour sa grande première en pro avec le FC Nantes.
On est à Metz avec Patrick Muller, Metz-Guingamp.
Et c'est la huitième minute dans cette rencontre 0-0. Et pour être tout à fait transparent, il ne s'est pas passé grand-chose pour l'instant. Un tout petit frisson tout à l'heure sur un jeu à deux entre Mounongo et Abouachvili. Mais la remise avec une talonnade d'Abouachvili n'a pas trouvé sa cible. Pour le reste, là, on est sur une séquence de possession des Guingampais qui sont plutôt bien en place, qui ne se livrent pas et qui vont jouer dans la profondeur côté gauche. Ça, c'est un bon ballon avec l'intervention qui semblait réussie de la part de Devnich, l'une des recrues défensives du FC Metz. L'action qui se poursuit, le centre de Kofi, ça va passer devant tout le monde, centre de l'extérieur du pied droit. Devnich, ce Colombien recruté par le Football Club de Metz, recruté en deuxième division portugaise. Et pour l'instant, c'est le, à ma connaissance, c'est le seul transfert payant, hein, 1 million d'euros. Oui, pardon, Kevin. Non, on ne s'est pas compris.
Vas-y, fini.
Je disais que c'était la seule recrue payante, parce que pour l'instant, côté Messin, on est sur des arrivées de joueurs libres ou alors des retours de prêt principalement.
Retour à Bonal avec Sébastien Ruffet entre les Lyonceaux et les Verts.
Ouais, toujours 0-0 après cette attention sur le centre, ce ballon dans la surface, va falloir le dégager côté stéphanois. Peut-être la reprise de Masson, c'est un petit peu écrasé. Oh, ça revient. Est-ce qu'il y aura quelque chose? On va revenir en hors-jeu. Il y aura un hors-jeu finalement, alors qu'on a réclamé un contact dans la surface de réparation du côté de Baghdadi. Ce ballon qui revient ensuite sur Djoko, mais qui était signalé en position de hors-jeu. Voilà les Sochaliens qui sortent un petit peu plus là depuis 2-3 minutes, qui montrent à ces stéphanois qui peuvent aussi se montrer dangereux. On a vu il y a 2 minutes un débordement avec Gomel qui avait été oublié sur le côté gauche, qui a réussi à jouer avec Victor Lobry en retrait. La frappe a été contrée ensuite par Julien Le Cardinal, mais ils se mettent en position. Ils sont en train de grimper de quelques mètres progressivement sur le terrain. Les Sochaliens sont en train de s'équilibrer et c'est pour l'instant un match avec pas mal d'intensité, hein, beaucoup de duels, notamment dans ce cœur de jeu dont je vous parlais tout à l'heure avec Stéphane.
Il y avait bien une position de hors-jeu sur cette tentative là, juste sur le rebond, le joueur sochalien qui est hors-jeu, mais c'est vrai que
il n'y a pas de contact sur Baghdadi, hein, au niveau de la reprise sur la première.
Oui, c'est le deuxième.
Ouais. Parce que moi j'ai pas d'écran, j'ai pas de retour. Donc s'il y a un truc litigieux, je m'en tiendrai à ma vision.
Quelle belle atmosphère quand même pour un match de Ligue 2 d'un promu, même si c'est un club historique. C'est un stade comme ça, Bonal, magnifique, avec beaucoup de maillots jaunes. Ça fait plaisir à voir.
Ouais, c'est superbe en tout cas. Et pour l'instant, les Sochaliens répondent présents sur le terrain également. Ils font plaisir à voir. Ils sont dans le duel, ils sont dans l'impact. Et si Saint-Etienne veut venir s'imposer, va falloir mettre de sacrés ingrédients. 10 minutes de passer ici à Bonal, toujours 0-0 entre Sochaux et Saint-Etienne.
Et on rappelle qu'il n'y a toujours pas la VAR en Ligue 2, malheureusement, pour cette saison 2026-2027. Le lancement justement de ce championnat, c'est ce soir sur RMC. On le vit tous ensemble, évidemment, avec 9 matchs au programme. On va retourner à la Beaujoire, David. La Beaujoire qui ce soir est à huis clos malheureusement pour ce Nantes Red Star.
12 minutes de jeu, 0-0 entre Nantes et le Red Star, et la domination du Red Star, hein. Attention, la Cafaro peut-être sur le côté droit pour le FC Nantes. Le centre de Cafaro s'est dégagé par la défense du Red Star et s'est récupéré derrière par Gilbert avec Sissoko qui va peut-être pouvoir écarter. C'est bien joué de l'autre côté pour Demen. Tabibou, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pouvoir éliminer? Il va pouvoir mettre en retrait pour Tati qui va mettre le ballon dans la surface de réparation, ou le mauvais centre de Tati. Et il y a eu une petite hésitation tout à l'heure d'Elias Zidane, hein. L'observe forcément, le quatrième fils de Zinedine Zidane, et une bonne récupération de Ganago, mais il n'a pas exploité cette petite erreur d'appréciation du défenseur central du Red Star. Encore un centre, la tête, la tête de Corredor, elle passe juste au-dessus de la cage de Gaëtan Poussin. 12 minutes de jeu, je vous disais, grosse domination, hein. En tout cas la possession, elle est vraiment du Red Star. C'était 82% tout à l'heure, hein, il y a quelques secondes. Donc les joueurs du Red Star qui ont le ballon dans ce début de match, mais toujours 0-0 après 13 minutes
après
de jeu.
On est habitué avec les équipes de Der Zakarian, c'est pas celles qui ont la plus grosse possession en général.
Mais quand même 82-18 après bientôt 13 minutes, bon voilà.
Il te dira qu'il y a 0-0.
Oui, c'est ce qu'il va dire. Effectivement.
Ça pique un peu pour l'instant. Le premier but de la soirée, le premier but de cette saison de Ligue 2 est marqué par Annecy Antoine.
Oui, but d'Annecy marqué par le défenseur central sur corner à la 11e minute de jeu. Axel Drouin, un peu seul. Il y avait beaucoup de monde au premier poteau. Il est venu reprendre ce ballon de la tête. Quelques minutes avant, il y avait eu une tête du numéro 9 de cette équipe annecyenne, Thibaut Rambeau. Voilà, et derrière sur le corner, Annecy qui marque donc le premier but de cette saison en Ligue 2. On joue actuellement la 13e minute de jeu et donc 1-0 pour Annecy. Annecy, je le disais, qui est détenu maintenant aussi par Aston Villa, hein. Voilà, c'était la petite nouveauté à Annecy cet été.
Exactement, un projet à suivre. Annecy qui a fait 7e, qui a fini au pied des barrages l'année dernière, et qui va profiter justement de cette jeune venture avec Aston Villa, avec plusieurs joueurs très prometteurs en prêt. Aston Villa qui est très porté sur la post-formation, qui a trouvé à Annecy une plateforme parfaite pour exposer ses talents.
Un seul but marqué, on le rappelle donc pour l'instant sur cette première journée de Ligue 2. C'est Annecy qui mène 1-0 face à Pau. Vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. Ne bougez pas, la Ligue 2 continue. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. On est ensemble sur RMC jusqu'à minuit. C'est le retour de la Ligue 2, la première journée ce soir avec Kevin Diaz, avec David. Mon Dieu, j'ai un trou. David Guzman, oui, c'est bien aussi. Tout à fait. Et donc, 9 affiches au programme pour cette reprise de Ligue 2. On va tout de suite aller à Sochaux. Sochaux face à Saint-Etienne. L'ambiance est magnifique à Bonal avec des supporters présents, mais pour l'instant, pas de but. Est-ce qu'il y a une des deux équipes qui domine ou pas?
Les Sochaliens ont inversé quand même un petit peu la tendance hein. Depuis quelques minutes, je trouve que Sochaux va un petit peu mieux, même si là évidemment ce sont les Stéphanois qui sont dans le camp des jaunes et bleus, avec le aux armes là qui vient de résonner côté Sochalien, toujours les 800 supporters Stéphanois qui donnent de la voix également. Ça donne un joyeux bazar, j'ai envie de dire, mais c'est franchement génial. On a des fois pas ça en Ligue 1, donc franchement on se régale, en tout cas au niveau de l'ambiance. Pour l'instant, tout le monde avait tellement envie d'être là que ça répond vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, et sur le terrain les deux équipes font preuve aussi d'enthousiasme. Ça y va, ça envoie du duel. Alors défensivement, je regardais un petit peu ce que font les Stéphanois. Ils sont relativement alignés en 4-2-4. C'est assez étonnant, avec une ligne d'attaquant qui vient assez haut pour couper la première ligne de passe. Mais ça fait que derrière, on a le duo Xiongwei et Barnauer qui est en train de pas mal courir pour colmater un petit peu toutes les brèches. Donc à voir si ça peut tenir comme ça sur la durée. En tout cas, pour l'instant, ça laisse pas énormément d'opportunités aux Sochaliens. Mais ça pourrait, au fil des minutes, se décanter un petit peu. On a passé le premier quart d'heure et les débats se sont très nettement équilibrés, voire, comme je vous le disais, un tout petit peu à l'avantage des Sochaliens, mais sans occasion vraiment franche pour l'instant, ni d'un côté ni de l'autre.
On est à Metz avec Patrick Müller, toujours 0-0 entre Metz et Guingamp.
Oui, après 16 minutes, même si on vient de voir enfin une première possibilité. Bon, elle était timide, hein, mais c'était en faveur du FC Metz. On y revient dans un instant parce qu'il y a un duel côté droit là avec Nathan Mbala qui va obtenir le corner. C'est le deuxième de cette rencontre en faveur du FC Metz. Il y a eu cette situation de tir donc avec un long ballon de Belive Munongo qui a alerté Pape Moussa Fall, cet attaquant dont on a parlé. Et Pape Moussa Fall qui a frappé, pas de gros danger sur Ortola. Pape Moussa Fall qui mesure 2m03. Hein. Voilà, donc ça peut être intéressant sur ce corner qui se profile. Rentrant côté droit, Nathan Mbala, bien frappé, mais il y a une faute commise par un Messin, une petite poussette, semble-t-il, peut-être de Abu Hashvili. Bon, voilà, c'était une petite éclaircie dans ce début de rencontre qui n'est pas extrêmement passionnant. Il y a une très belle organisation, je trouve, de la part des Guingampais qui sont remarquablement en place, et les Messins qui petit à petit essayent de trouver des solutions et de chercher des failles dans ce bloc, encore une fois qui est bien installé hein, vraiment de la part des Bretons et de Sylvain Ripoll. 17 minutes dans cette rencontre, allez, on va se dire que ça va s'animer un petit peu plus encore. 0-0 pour l'instant entre Metz et Guingamp.
Un seul but marqué, c'est en faveur d'Annecy sur la pelouse de Pau, Antoine, mais Annecy qui vient d'être réduit à 10.
Et oui, quelques minutes seulement après l'ouverture du score ici, 18e minute de jeu, 1-0 pour Annecy, ouverture du score à la 11e minute d'Axel Drouin. Et bien quelques minutes juste après ce but, c'est Clément Bilmaz, le milieu de terrain annécien, qui est exclu pour une faute au coin droit de la surface. Vraiment le palois allait rentrer dans la surface, il l'accroche juste avant, ça aurait pu être un pénalty, un carton jaune, mais c'était juste avant l'extérieur de la surface, donc carte rouge, exclusion. Annecy qui mène 1-0 après 19 minutes de jeu, mais qui est donc réduit à 10.
Merci beaucoup. Rappelle-nous les autres affiches, s'il te plaît.
Alors, Montpellier, 0-0 face à Dijon, 19 minutes de jeu. Boulogne-sur-Mer-Nancy, 19 minutes de jeu, 0-0. Rodez-Laval, 19 minutes de jeu, 0-0. Et Dunkerque-Grenoble, 0-0 à la 19e minute de jeu. Alors qu'il y a un carton rouge, il me semble, du côté des Lavallois. Je ne sais pas encore de qui il s'agit, mais à suivre ça dans les prochaines minutes.
Merci beaucoup, on revient te voir dans quelques minutes pour la suite de ces difficultés qu'il y a a priori effectivement pour les joueurs lavallois. On va partir en Auvergne, Damien Tardieu, 0-0 entre Clermont et Reims.
Ouais, 0-0 et peu d'occasions. Attention là, peut-être les Rémois dans la surface de réparation, ça va être récupéré par le gardien clermontois qui est Théo Guibarge. 19 minutes, 0-0, une seule frappe pour l'instant pour les Rémois tout à l'heure suite à un coup franc qui était pourtant bien placé. Daouda Guindo avait frappé dans le mur, derrière c'est Ange Tia qui a tenté sa chance, c'est passé largement au-dessus. Les Rémois qui autour de la 10e minute avaient eu une bonne opportunité avec Soumano lancé en profondeur. Il avait fallu le bon retour de Johan Salmier pour empêcher les Rémois de se montrer dangereux, mais on a une opposition de style, hein. Et les Clermontois vont devoir trouver des parades parce qu'ils sont opposés à une équipe rémoise qui athlétiquement paraît quand même supérieure, hein. Notamment le milieu de terrain là, Tiag, Bané, Fofana, c'est très très solide. Les Clermontois proposent un peu autre chose avec des redoublements de passes. Ce sont eux qui ont la possession d'ailleurs, qui s'approchent de la surface là avec Adrien Hunou qui peine à trouver des solutions, qui va être obligé de repasser derrière. On s'ennuie un petit peu après 20 minutes ici au Montpied, c'est un début de saison, on sent que les deux équipes ont besoin de se rassurer. 0-0 entre Clermont et Reims, 20 minutes au Montpied.
Et Laval effectivement donc qui a été réduit à 10 suite à une faute de Sidi Bané. Le joueur a retenu un adversaire de Rodez et donc Laval qui est réduit à 10. On rappelle que Laval a eu un changement d'entraîneur, Olivier Frappoli, qui était là depuis de très longues années et qui a été remplacé par David Ving. Tu voulais dire quelque chose sur Olivier Frappoli?
Non, pas du tout.
Ah, mais David Ving, tu disais oui, c'est pour ça.
Non, mais qui avait fait une super saison à Fleury, qui a même failli monter en Ligue 2. Donc moi j'aime une progression linéaire et de la promotion division des entraîneurs français.
Donc Olivier Frappoli qui a quitté les Tangos, lui qui était attaché à ce club depuis de longues années. On va retourner voir Patrick Muller à Metz. Metz-Guingamp, il se passe rien chez toi?
Oh, il y a une petite situation avec Ortola. J'essaie de te vendre le produit comme je peux, hein, en fonction des éléments qui me sont donnés. Une situation où Ortola, le portier guingampais. Alors, on sait qu'il aime sortir au pied le plus haut possible. Il a failli se faire piéger sur ce coup-là parce que il garde ce ballon, il monte balle au pied et il tente de servir Amine Emia qui était venu décrocher. Récupération Messine. Et à ce moment-là, il y a Maxime Collin côté droit, le capitaine, qui aurait peut-être pu tenter la frappe de loin, la frappe lobée, et finalement il tente de servir l'un de ses coéquipiers, je crois que c'était Mbala. Attention à cette frappe là de la part des Guingampais, je crois que c'est Teddy Averland, l'une des recrues. Il a bien brossé son ballon mais c'est passé à gauche du poteau de Jonathan Fischer qui officie dans la cage du FC Metz. Donc voilà, pour résumer, Maxime Collin aurait peut-être dû prendre sa chance. Derrière, il y a une frappe de Mbala qui n'a pas donné grand-chose. Mais petite alerte pour Adrian Ortola sur ce coup-là. 21 minutes, c'est un petit peu mieux quand même dans cette rencontre. 0-0 néanmoins toujours.
Attention, le but pour Saint-Etienne. Le but de Jacob Brehm après le petit numéro là-bas d'Agustin Boakye qui le gratifie d'un coup du sombrero. Derrière, il résiste au retour de son défenseur. Svedi Jamin qui sort, mais il réussit à pousser ce ballon en retrait. Il avait vu son numéro 10. Et Brehm qui n'a qu'à ouvrir son plat du pied pour la glisser au fond des filets. C'est dur pour les Sochéens parce que c'est pas forcément mérité sur les dernières minutes. Mais voilà, cette équipe de Saint-Etienne qui s'en est remis à un petit coup de génie là de Boakye dans la surface de réparation avec ce coup du sombrero. Et derrière, il résiste bien. 1-0 en faveur de Saint-Etienne à la 22e minute, alors qu'on a déjà passé la pause fraîcheur. C'était la 18e minute, donc personne n'a compris ce qui se passait. Il avait sans doute un petit peu chaud, l'arbitre. Mais résultat, il a remis tout le monde en place. Yann Quatrom, visiblement. Et ça a bénéficié à ces Stéphanois, cette pause fraîcheur qui ouvre donc le score ici à Bonal. 1-0, 22 minutes.
Messieurs, but pour Saint-Etienne, mais Mehdi Janin est fautif.
Oui, bah après, il y a quand même une belle action là sur le côté là du Stéphanois qui fait un sombrero, qui remet en retrait et Brehm qui est bien placé, qui va finir. Ah, c'est vrai qu'il
rate sa sortie.
Ah non, c'est pas le gardien, pour moi c'est plus.
Mais Mehdi Janin, pourquoi il part comme ça côté droit?
Pour moi c'est plus le défenseur là qui rate surtout son intervention sur le sombrero. Après le gardien il peut rester sur la ligne, mais je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose.
Boakye, le passeur décisif d'ailleurs, qui a été blessé dans l'emballage final l'année dernière, et lui, si lui peut rester en jambe toute la saison, ça va vraiment faire toute la différence. Il avait déjà brillé en Autriche il y a 2 ans. Super joueur, surtout au niveau de la Ligue 2.
Ça commence à s'animer, il y a un but à Dunkerque, Antoine.
Et oui, superbe but de Victor Maillet, là une enroulée pied droit exceptionnelle, hein, dans la lucarne d'Alexandre Liro. C'est franchement l'un des buts déjà, hein, première journée, 23 minutes de jeu, on s'emballe un petit peu, mais c'est déjà l'un des buts, hein, de ce début de saison. Ce sera assurément un magnifique but grâce à cette super frappe de Victor Maillet là, qui permet à Dunkerque de mener 1-0 face à Grenoble après 24 minutes de jeu.
3 buts déjà marqués, donc Dunkerque qui mène 1-0 face à Grenoble, Annecy qui mène 1-0 sur la pelouse de Pau, mais qui est réduit à 10, et Saint-Etienne qui vient donc d'ouvrir le score sur la pelouse de Bonal à Sochaux. On est avec Damien Tardieu.
Cardona, le ballon piqué, Cardona 2-0 pour Saint-Etienne, avec le petit ballon glissé par Jacob Brehm. Oh, quelle galette il lui a donné, le petit ballon pile comme il faut. Mathieu Pébarnès qui essaye de tacler, mais il lui manque les 3 cm de dosage de Jacob Brehm pour pouvoir intervenir. Et derrière, Evin Cardona avec sa classe et son élégance naturelle, le petit ballon piqué magnifique, exceptionnel. Mais Dijana ne peut rien faire parce que le ballon est absolument parfait. Oh, le coup sur la tête là des Sochaliens qui vont avoir du mal à s'en remettre. 2-0 dans la foulée, 24 minutes ici au Stade Bonal.
Après là il y a de la galette hein. Là c'est la galette des rois avant l'heure hein, parce que la passe elle est magnifique et derrière le petit piqué du pied gauche de Cardona, voilà, c'est du très haut niveau quand même.
Ah, le dosage de la place de Brehm, c'est juste parfait. Un peu plus long, ça peut être éventuellement sorti par Jeannin qui sort. Un tout petit peu plus court, c'est Mathieu Pébanès qui intervient. Elle est juste parfaite cette passe. Et je vous disais, ce cœur de jeu, et on avait vu pendant la pause fraîcheur Vincent Ognon venir parler avec justement plus particulièrement Lobry, Bagdadi et Masson pour dire attention dans l'axe, comment on vient prendre cette zone. Et là Brehm qui est rentré, qui vient en position numéro 10 et qui se fait un petit peu oublier, on va dire, qui prend en tout cas les 2 mètres nécessaire pour avoir le temps de glisser ce ballon juste comme il faut. C'est absolument parfait. Et là, cette fois, Saint-Etienne a pris vraiment les choses en main. 2-0 donc, et on joue la 25e.
Brehm, il annonce une passe D, un but en 25 minutes de jeu.
Et Cardona, c'est pas mal.
Et Cardona, entre le piqué qu'il met contre Bordeaux il y a 2 ans et ce piqué-là.
Tu t'en es pas remis là.
Non, et plus que le but kung-fu qu'il avait mis avec Brest, je sais pas si vous vous souvenez, en Ligue 1, absolument somptueux. Il est quand même coutumier des gestes techniques de haut de volée.
Après, on dit qu'en France, il n'y a pas d'argent, mais on a quand même un des meilleurs joueurs du championnat néerlandais qui a fini et qui a gagné la coupe avec son club, son petit club de Go Ahead Eagles, Deventer, et derrière qui signe en Ligue 2 à Saint-Etienne. Bon, c'est quand même pas rien, un mec qui joue en D2, qui signe en Ligue, qui joue en D1, qui signe en D2 en France. Il y a quand même de l'argent à Saint-Etienne.
Kevin, ces deux dernières années, Saint-Etienne ça aurait été top 10 Ligue 1 en matière de dépenses transfert.
Stassin a beaucoup d'argent.
Ça dit millions. Exactement. Et surtout Stassin.
Mais Stassin, ils étaient en Ligue 1.
Oui, mais attends.
Oui, mais Stassin, c'était déjà une grosse défense.
Stassin, le tour de force, c'est quoi? C'est de ne pas l'avoir laissé partir quand tu avais des offres à 20-25 millions. Quand le PFC arrive, mais 20-25 millions, toi tu dis non, écoute, il reste, t'envoies un sacré message au marché.
En tout cas, Saint-Etienne qui entame parfaitement cette Ligue 2 avec 2 buts coup sur coup et qui mène donc 2-0 sur la pelouse de Sochaux. On va aller voir Damien Tardieu parce que ça chauffe entre Clermont et Reims.
Ouais, c'est dur pour Clermont. 26 minutes de jeu, 0-0, mais les Rémois en mettent un peu plus d'intensité et ils font mal, je le disais tout à l'heure, plus puissants, notamment on a vu les débordements de Darami tout à l'heure. Ils ont un petit peu de réussite les Clermontois parce qu'à chaque fois ça a été mal fini par les Rémois. Les Clermontois qui sont quand même à l'attaque, le centre, ça va être dégagé par la défense rémoise des Auvergnats qui, on le sent au milieu de terrain, ont du mal physiquement à exister face à cette équipe rémoise qui avait démarré piano et puis qui là en met un petit peu plus. Il y a une faute là de Adrien Hunou ou de Mohamed Amine Bouchena pour les Auvergnats. Les Rémois vont pouvoir se dégager, mais Reims qui est un prétendant à la montée est en train de vraiment rentrer dans son match là pour le coup après les 25 minutes d'observation. Pour l'instant, sans dommage pour les Clermontois, 0-0, 27 minutes de jeu au Montpied.
Vous vivez la première journée de Ligue 2, le tour des stades. On est à Metz avec Patrick Muller. Le temps, le score.
27 minutes 0-0 entre Metz et Guingamp.
On est à la Beaujoire, David.
28 minutes 0-0.
Nous sommes également à Bonal avec Sébastien Ruffet.
27 minutes et 2-0 en faveur de Saint-Etienne face à Sochaux. De Bucou sur coup signé Brehm et Cardona, 22e, 24e.
Et le point sur les autres rencontres avec Antoine Brard.
Dunkerque-Grenoble, 1-0 pour Dunkerque, 28e minute de jeu, ouverture du score.
Victor Maguila, Saint-Etienne. Saint-Etienne, le 3-0! Le 3-0 avec au départ encore sur le côté gauche la galette de Brehm sur le côté gauche pour le débordement de Tierno Ballot qui sert Erwin Cardona qui avait suivi deuxième poteau qui met son plat du pied pour le doubler. Quelle action d'école avec le lancement là-bas côté gauche. On lève la tête, on met un plat du pied à ras de terre et on suit avec un deuxième plat du pied. Tout est scolaire mais tout est magnifique dans cette action de Saint-Etienne qui enterre définitivement peut-être tout espoir sochalien. C'est très très dur là pour Sochaux qui n'a pas démérité, qui fait plutôt un bon match mais qui prend un troisième but après seulement 28 minutes.
Messieurs, c'est un pénalty facile, que c'est beau. Ah Patrick, tu m'annonces un pénalty, c'est ça?
Un pénalty en faveur du Football Club de Metz. Une main dans la surface, semble-t-il, d'un joueur de Guingamp. Après une grosse occasion pour le coup, la première dans cette rencontre. Il y a cette grosse frappe de Miguel sortie par Ortola. Et derrière sur le corner, il y a une main de la part de Guingamp. C'est un peu confus. Ouais, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une main sifflée par monsieur Aurélien Petit. Et alors, l'opportunité.
On va le vivre avec toi ce pénalty, mais d'abord, messieurs, on va analyser donc ce doublé de Cardona. Ça fait 3-0. Saint-Etienne, ça semble tellement simple parce que tout est fait dans le bon tempo, tout est juste.
Mais là, c'est vrai que là, c'est encore une fois, c'est au niveau. Quand on dit que le talent, ça sert quand même à gagner des matchs,
ça la va passe être frappé de Brehm, côté centre,
tout est bon.
Et l'arrêt d'Ortola, la deuxième chance, oh la barre! Oh la barre incroyable, l'arrêt d'Ortola
dans un premier temps face à Pap Moussa Fall. Et derrière, le ballon sur la barre transversale. Oh. Terrible, terrible pour les Messins et pour ce joueur sénégalais dont on a parlé et qui fait son retour, j'allais dire. Mais non, parce qu'en fait, il n'a jamais évolué ici. Il a été prêté deux saisons de suite. Lui, l'ancien de Génération Foot. Et voilà, l'arrêt dans un premier temps d'Ortola, la barre transversale derrière. Et il y a corner à suivre, en
fait,
Karine.
Il a fait ce que moi j'aime plutôt bien, c'est-à-dire qu'il a frappé fort au milieu, mais le gardien.
Ouais, il a pas bougé. Ah oui, pleine balle. Ouais, bon,
des fois, les mecs, ils te font des plats du pied et tu dis, ah, c'est bien arrêté.
Ouais, là, il a tiré plein centre, mais le gardien n'a pas bougé, donc effectivement, il lui a tiré dessus. Et au final, il la met sur la barre transversale en deuxième tentative. Et franchement, Patrick, ça pue les scénarios de la saison passée. Hein. Combien de fois on a vu ce scénario-là?
Oui. Bah, on a eu des buts annulés pour un centimètre. Je pense notamment à Gauthier. Enfin bon. L'année dernière, il y avait tellement de manques qu'on peut pas trop accuser les scénarios ou les coups du sort ou les faits de jeu. Hein. On va être honnête.
Je vais quand même faire le premier point mode de la saison 2027, 2026-2027. Alors, le maillot, c'est quoi l'histoire là, avec les manches dorées là?
C'est un rappel à la pierre de Jaumont, qui est une couleur caractéristique de beaucoup de monuments dans l'architecture messine. C'est une spécificité. Et donc, c'est un petit clin d'œil avec le grenat, bien sûr, couleur historique, qui vient d'ailleurs de Torino, hein, Carlo Molinari, l'emblématique et légendaire ancien président du FC Metz. Et donc, les manches jaunes qui te font peut-être penser à la Roma, je sais pas.
Mais oui.
Je me projette un petit peu dans ta tête. Il est plutôt sympa, avec un joli col. Effectivement, il est bien coupé, bien designé. C'est un artiste qui l'a réalisé, un supporter du FC Metz. Et donc voilà, la présence du jaune, c'est un rappel par rapport à cette couleur qui est très très caractéristique.
Merci pour ce
de la
moment.
Avec grand plaisir. C'est patrimonial.
On a l'impression qu'on est dans le Tour de France là.
FC Metz, époque Danny Boffin, Rigaud Berson. Il n'y a pas une saison, ils ont justement un rappel doré. À côté du Grenat.
Si, je suis d'accord. Un maillot capa
possible. Ouais, et ben on fêtera bientôt d'ailleurs les 30 ans, hein, de ce titre de vice-champion de France. Mais je m'interroge, mais il est fort possible qu'il y ait eu la présence. Enfin, en même temps, ça leur a pas porté bonheur puisqu'ils n'ont pas été champion de France parce que c'est le RC Lens.
C'est un puma, tu sais pas, c'est pas un puma où t'avais un.
C'était Puma, il me semble.
Un rappel, je crois même qu'il
manque. C'est peut-être un puma. Ouais.
Je crois que c'était celui-là, ouais.
Et sur 97-98, faudrait réfléchir, mais voilà, je refais ma petite blague douloureuse pour les supporters du FC Metz. Si rappel jaune il y avait, ça n'a pas été forcément heureux, puisque c'est le RC Lens cette année qui a été champion de France pour une différence de but de 5.
En parlant de Metz, on peut quand même saluer les débuts historiques en Ligue 3 de Thionville, qui a gagné son premier match à Aubagne 3-0, c'est beau.
Mais tu dis ça parce que ce club s'appelle US Thionville Lusitanos.
Non, je ne parle que de Thionville. Il n'y a qu'un seul Lusitanos, c'est à sa mort.
Bon, en tout cas, comment le maillot dans l'oreillette me dit qu'en 2000-2001, il y avait du doré sur le maillot du FC Metz, et en 2003-2004 aussi. Donc je vous répète les informations de Samuel.
Mais pas en 97-98 alors.
Ça on sait pas.
Non, mais il y a quand même un petit rappel.
96-97, je suis dessus sur les manches. Il y a un liseré jaune doré. Absolument.
Messieurs, on va finir juste le tour des stades, parce qu'on était avec Antoine, on l'a coupé.
On préfère faire le point mode. Voilà.
Rappelle-nous tes matchs et les scores, s'il te plaît.
Dunkerque-Grenoble, 33 minutes de jeu, 1-0 pour Dunkerque, but à la 21e minute de Victor Mayella. Rodez-Laval, 33 minutes de jeu également, mais Laval est à 0-0, mais Laval est à 10, exclusion à la 19e minute de Sidi Ban. Montpellier-Dijon, 34e minute de jeu, 0-0. Boulogne-Nancy, 34e minute de jeu, 0-0. Et enfin, Pau-Annecy, 1-0 pour Annecy, but à la 11e minute par Axel Drouan. Mais Annecy est à 10 après l'exclusion à la 16e minute de Clément Bilmaz.
5 buts marqués pour l'instant sur les pelouses de Ligue 2, dont 3 du côté de Saint-Etienne, qui est en train de pulvériser les Sochaliens à Bonal. Vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite pour la suite de la Ligue 2.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. Vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. On vit la reprise de la Ligue 2, première journée de ce championnat passionnant avec 9 matchs au programme. Kevin Diaz et David Guzman sont à mes côtés. Pour l'instant, c'est la régalade pour les Stéphanois. Saint-Etienne qui mène 3-0 sur la pelouse de Sochaux. C'est allé très vite, Sébastien Ruffet. Les Stéphanois qui ont enchaîné les 3 buts.
Ouais, et bizarrement entre guillemets juste après la pause fraîcheur, hein, il y a eu sûrement eu une petite réorganisation de tension parce qu'ils sont aux abords des 16, mettre les Stéphanois à nouveau, mais Sochaux va réussir à se dégager. Et effectivement, il y a eu un petit recadrage tactique et je regardais un petit peu justement ce qui avait changé. Bayervid Cardona qui était dans l'axe est passé un peu plus à droite. Brahim qui était un peu légèrement excentré avec tendance à rentrer et rester vraiment complètement dans l'axe. Et ce sont les joueurs qui ont été décisifs. Le bon coaching et le bon recadrement de Yann Catro qui avait tous ses joueurs autour de lui et à force de grands gestes à corriger certaines petites choses et comme par hasard entre guillemets dans la foulée les trois buts coup sur coup 22e, 24e, 28e minute pour marquer ces trois buts il y avait sûrement il n'y est pas totalement étranger je pense Yann Catro sur ce coup là parce que clairement il a changé quelques petits trucs qui ont perturbé cette équipe, cette défense sochalienne qui essaie de retourner quand même au combat, hein, qui essaie de retourner de l'avant, d'aller mettre un petit but avant la mi-temps, pourquoi pas revenir à 3-1 pour se donner un petit peu de baume au cœur et repartir. Et puis de toute façon il faut jouer jusqu'au bout parce que c'est le retour en Ligue 2, parce que le stade est plein et qu'il faut quand même malgré tout faire à honneur à son public. Attention la sortie, oh là là, avec Djoko qui est passé devant l'Arseneur, il y a un contact, alors on va donner la faute en faveur du gardien, mais ce ballon avait été coupé par Kopi Djoko en premier lieu j'ai l'impression, et derrière il y a un contact entre les deux. Ouf, l'arbitre va essayer de donner la faute en faveur du gardien stéphanois, mais alors moi j'ai pas de retour, j'ai pas de ralenti, donc je veux bien avoir votre avis si jamais vous avez quelques images sur cette situation là parce que Djoko il est pas bien content qu'on puisse lui siffler une faute contre lui parce que lui il avait coupé ce ballon, ce très bon centre là qui venait de la droite.
Alors on revoit actuellement les images. Pour vous, il y a faute de l'Arseneur ou il y a faute du Sochalien?
Pour moi, il y a faute ni l'un ni l'autre. Les deux jouent le ballon. Il y a le Sochalien qui arrive en premier, qui prend le ballon, et l'Arseneur qui va à l'aventure, la tête en avant.
Ah oui, c'est pris un gros coup de genou l'Arseneur dans la tête.
Non, là. C'était pas le genou.
Il s'est pris la hanche.
Ouais, mais c'est tout aussi dur. Mais après, l'Arseneur, il a pas du tout maîtrisé son intervention.
Hein, l'Arseneur a l'air quand même un peu groggy parce que dans le visage, il y a eu un gros impact. En tout cas. Bon,
ouais, après c'est pas la faute à Djoko si l'autre il sort avec la tête en avant non plus quoi.
C'est ce que
Djoko explique à l'arbitre quoi.
Le ballon, il fait rien de dingue, l'Arseneur il maîtrise pas du tout sa sortie, il va la tête la première. Moi de toute façon l'Arseneur
je suis pas du tout étonné qu'il ait mis en concurrence et qu'ils aient acheté un second gardien parce que c'est vrai que l'année dernière même si dans le leadership il est régulièrement présent, je trouve que dans les faits ses performances sont relativement chutées et cette sortie hésitante en est le symbole.
En tout cas, il a pris un tampon. On rappelle que Saint-Etienne mène 3-0 sur la pelouse de Bonal. Ouais. On va retourner à la Beaujoire. Qu'est-ce qui se passe à Nantes Star,
rien.
David, tu nous appelles pas? Bah oui, je suis inquiet.
Rien du tout. Rien du tout. La 39e, c'est vraiment triste, hein, à l'image de l'ambiance. Ce match, ce FC Nantes, alors on va pas déjà tirer des conclusions, hein, c'est évidemment trop tôt, mais on sent une équipe du Red Star, forcément. Il y a eu beaucoup de stabilité cet été, des joueurs qui sont connectés entre eux. Nantes, pour le moment, c'est vraiment très, très, très laborieux. Pas d'occasion franche d'ailleurs, même du côté du Resta, hein, pour l'instant pas d'occasion franche dans ce match. Ils ont beaucoup de mal à se trouver, on abuse de long ballon, la faute là de Elias Zidane sur Ganago, ça donnera un coup franc dans le rond central, mais 0-0 donc après 39 minutes de jeu, pas d'occasion du tout à l'instant. Là, il y a deux minutes il y a eu un centre de Cafaro et au deuxième poteau ça a été dégagé par la défense du Red Star, mais c'est vrai que pour le moment c'est très très compliqué pour les hommes de Michel Derzakarian.
Mais si on est déçu un petit peu, c'est pauvre ce Nantes Red Star.
Ah bah ouais. Moi je suis jamais attendu en fait à du football.
Non mais c'est quand même une affiche de la soirée.
Oui mais du football samba de la part de Michel Derzakarian, 5-3-2. Moi je suis pas forcément surpris. Là où le Red Star, c'est aussi offensivement et surtout offensivement qu'ils doivent se remplumer. Je suis pas surpris moi du format du match.
Après là il y avait quand même une bonne situation de transition qui est mal jouée par le Red Star, mais je t'avoue que je suis plus happé par le match entre Saint-Etienne et Sochaux que par celui de Nantes pour l'instant.
On est impressionné effectivement par Saint-Etienne qui déroule. On va retourner également voir Damien Tardieu entre Clermont et Reims. Est-ce qu'il y a toujours une équipe qui domine? Est-ce que les Rémois sont toujours dangereux?
Oh, ça s'est un peu calmé. Ils ont eu vraiment un temps fort de 5-10 minutes. Depuis, Clermont a remis un peu le pied sur le ballon. Ils ont été aidés aussi par des Rémois qui, par quelques erreurs de relance, ont offert aux Auvergnats des phases de transition. Pas forcément très bien à négocier. On a vu tout à l'heure quand même la première tentative avec un bon échange côté gauche. Le centre de Koné repris par Arthur Saint-Aurin, ce qui est l'un des jeunes joueurs que l'on va découvrir côté Clermontois. Attention, dans la surface, là, ce sont les Rémois qui sont à l'attaque, mais il a glissé sous Mano au moment de centrer. Ça sera une sortie de but pour les Clermontois. Clermontois. Oui, Arthur Saint-Aurens côté Auvergnat, attaquant avant-centre arrivé de Bayonne. Voilà Clermont qui se remet à aller chercher dans les divisions inférieures, ce qu'il avait bien fait d'ailleurs il y a quelques années, l'année de la montée, avec des garçons comme Jim Alvina par exemple, qu'ils avaient été chercher au puits. Clermont a pas trop de sous, et même avec les nouveaux propriétaires qui l'ont dit d'emblée, hein, il y aura pas de folie, véritablement on essaie d'abord de reconstruire un équilibre économique avant d'avoir des ambitions peut-être un peu plus importantes. Du coup il faut essayer d'être malin sur le marché des transferts. Il y a eu également l'arrivée de l'ancien capitaine des Girondins de Bordeaux, Jean Griot, 21 ans, pour une équipe clermontoise très jeune qui pour l'instant résiste. Ils ont souffert pendant 5-10 minutes, depuis ça s'est équilibré. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps, 0-0 entre le Clermont Foot et Reims.
Vite, t'as souri quand on a dit ancien bordelais.
Absolument. Jean Griot, qui était peut-être le dernier vestige de la formation bordelaise, puisqu'il avait fait une apparition en Ligue 2 l'année de la deuxième non-montée. Donc oui, on lui souhaite bien évidemment bon courage à Clermont. Et je crois d'ailleurs qu'il est aligné hors poste, parce que c'est un défenseur central qui est aligné au milieu là, ce soir.
Ah, il a été testé pendant, parce qu'il a été à l'essai pendant quelques jours. Il a été testé en amical au milieu de terrain, et là il est installé au milieu de terrain, effectivement, Jean Griot.
Et toujours Sam me dit dans l'oreillette, c'est le seul joueur qui est resté quand le club est tombé en national. Samuel qui aime beaucoup les Girondins de Bordeaux comme David, donc vous devez beaucoup.
Euphémisme, aime beaucoup ça, mais passionné.
Oui, passionné, oui, j'ai l'impression.
Beaucoup de gens qui sont passionnés des Girondins de Bordeaux.
Ouais, c'est ça.
Quel beau club.
Je sais en plus que tu partages notre admiration. Ouais, tu m'en parles régulièrement.
J'aime bien ce club, c'est un club historique du football français. Par contre, ce qui se passe depuis quelques semaines, depuis quelques mois, voire depuis quelques années, forcément c'est très triste. Et donc, de penser pour tous les supporters bordelais.
En tout cas, Samuel,
et pour ceux de Saint-Malo et des autres clubs qui espèrent ne pas les voir en National 1.
On attend toujours la décision d'ailleurs, parce que tout le monde se renvoie la patate chaude. Personne ne veut statuer, bien évidemment.
Oui, même le CNOSF, un avis consultatif, ne l'a pas encore officiellement fait. Ouais. On croise les droits pour la reprise.
Ils veulent tous fuir leurs responsabilités. On voit ça effectivement. On va retourner voir Patrick Muller, Metz-Guingamp. On rappelle que les Messins ont raté un pénalty.
Oui, en deux temps, avec d'abord un arrêt d'Ortola sur cette première tentative de Fall, et puis ensuite la barre transversale qui vient s'interposer. C'est beaucoup mieux hein, depuis dans cette rencontre, c'est beaucoup plus plaisant, avec des Messins qui ont certainement des coups à faire, qui manquent, comment dirais-je, peut-être d'un petit peu de conviction sur certaines situations, mais clairement, ils ont pris l'ascendant. Et puis un joueur qui est en train de rendre fou les spectateurs et les supporters autour de moi, c'est le gardien guingampais, hein, c'est Ortola. Alors à cause de ce double arrêt, enfin de ce premier arrêt certainement, mais aussi il monte balle au pied, il n'est pas attaqué, il attend, ça dure. Alors autour de moi tout le monde s'excite en disant mais montez sur lui. Et en fait c'est une stratégie, d'ailleurs on l'avait vu il y a deux ans lors d'un Metz Dunkerque, il officiait d'ailleurs à ce moment-là dans le Nord. Mais il attend d'aspirer un, deux joueurs, et ensuite il relance. Et c'est vrai que ça casse le rythme et ça agace beaucoup là dans les tribunes de Saint-Symphorien, avec là une frappe guingampaise captée sans aucun problème par Jonathan Fischer. Mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu baissé de pied là les joueurs bretons. Et les Messins qui dominent clairement maintenant, alors qu'il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire de cette première période. 0-0 entre Metz et Guingamp.
Mais il faut arriver à concrétiser pour le club relégué en Ligue 2. On va retourner voir Sébastien Ruffet. Bonal qui a pris un énorme coup sur la tête. Est-ce que les supporters sont quand même toujours aussi bruyants, ou ils sont un petit peu atteints?
Ah, ça a mis quand même un coup sur la carafe à tout le monde. C'est clair que c'est un peu moins bruyant. On entend un peu plus les Stéphanois, c'est sûr. Mais voilà, ils sont toujours là. C'est Sochalien avec la première frappe cadrée à l'instant de Bagdadi. Il a été au 18 mètres avec le champ un petit peu ouvert sur la droite de Gauthier Larsonneur qui s'est couché pour prendre ce ballon qui manquait un tout petit peu de puissance. Mais voilà, ils tentent toujours crânement leur chance. Et je regardais tactiquement, il y a quand même un petit écart de niveau encore entre les deux équipes, parce qu'on voit Saint-Etienne à quel point c'est huilé. Les quatre joueurs offensifs, Boaki, Cardona, Ballot et Brum, en fait ça permute tout le temps. Je l'ai regardé, une fois c'est l'un qui est en pointe, l'autre il passe à gauche, une fois c'est à droite, une fois machin. Je regardais tout à l'heure, ce ballon était sur le côté gauche, Jacob Brum est passé, il a fait un petit signe à Ballot, il a levé le pouce, hop, Ballot est passé en pointe, Brum est parti côté gauche, il a touché le ballon, il a envoyé un ballon en profondeur. Ils sont vraiment dans une organisation, on sent qu'ils savent déjà tous ce qu'ils ont à faire dans cette équipe. C'est assez impressionnant. Après seulement, bah voilà, ce n'est que la première journée, donc franchement c'est hyper intéressant. Et le rôle aussi de Jacob Brum, on le disait, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a joué à un plus haut niveau que ça. C'est lui qui organise tout le monde, il est là, il dit tiens toi tu vas là-bas, toi tu viens ici. Et vraiment il a un rôle, mais qui est central, c'est vraiment le cas de le dire, dans cette équipe de Saint-Etienne pour l'instant. Et évidemment un but, une passe D, il est au four et au moulin. Et à l'avant-dernière passe également du troisième but signé tout à l'heure Irvine Cardona, alors que côté Souchalien, J'ai l'impression que souvent il y a un peu des écarts, des décalages, des joueurs qui sont un petit peu en retard, on vient pas assez vite, ou dans le replacement il manque un mètre ou deux pour pouvoir intervenir. Donc voilà des ajustements côté Sochaux qu'il va vraiment falloir régler, alors que côté Saint-Etienne on a l'impression, au-delà tout à l'heure Kevin tu parlais du talent brut qu'une équipe peut avoir, au-delà du talent il y a encore beaucoup de boulot côté Sochaux, alors que Saint-Etienne m'a l'air quand même déjà plutôt bien rodé. Et on rentre à l'instant dans le temps additionnel avec ce score de 3-0 en faveur de Saint-Etienne. Il aura 5 minutes de temps additionnel.
Mi-temps à Clermont.
Mi-temps à Clermont et donc pas de but Damien.
Non, 0-0, il a fallu attendre la 44e et une tentative à angle fermé sans danger pour Théo Guivarch de Mohamed Darami pour les Rémois pour voir la première frappe cadrée de cette première mi-temps. Il va falloir que les Rémois fassent plus dans cette deuxième mi-temps, qui sont prétendants à la montée pour venir s'imposer à Clermont. 0-0 à la mi-temps.
Merci mi-temps beaucoup, à la Beaujoire. On vient te voir dans quelques minutes. Mi-temps à la Beaujoire, David.
J'entendais mon collègue qui disait que Saint-Etienne était bien rodé. Le FC Nantes, lui, ne l'est pas du tout. 0-0 entre le FC Nantes et le Red Star dans un stade à huis clos, on vous le rappelle. Quasiment pas d'occasion. Si, une sueur froide pour Michel Derzakarian. Il y a quelques instants, un tir un peu anodin de Durand et une énorme faute de main de Maxime Dupé. Ils se sont fait peur, les Nantais, finalement. Ils ont réussi à dégager le ballon. 0-0, donc à la mi-temps, entre le FC Nantes et le Red Star.
Antoine, il y a eu un but entre Dunkerque et Grenoble.
Oui, l'égalisation des Grenoblois un partout. Dunkerque avait ouvert le score à la 21e minute de jeu par Victor Maiella, mais juste avant la mi-temps, 45e minute de jeu, égalisation de Yadali Diaby sur un corner mal repoussé par le portier dunkerquois. Il n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets et ça fait donc un partout entre Dunkerque et Grenoble. On est dans la deuxième minute du temps additionnel de cette première période. Et sur les autres matchs à noter, Rodez-Laval toujours 0-0 avec un carton rouge pour Laval qui joue à 10, qui avait été réduit à la 19e minute de jeu. Montpellier-Dijon 0-0. Boulogne-Nancy 0-0 également, et Annecy mène 1-0 à Pau grâce à un but d'Axel Drouin, mais Annecy est à 10 suite à l'exclusion de Clément Bilmaz.
On est et la pause à Metz, Karine.
Mon cher Patrick, oui, donc pas de but hein, entre Metz et Guingamp.
Pas de but, non, 0-0. Une première mi-temps soporifique, un dernier quart d'heure beaucoup plus intéressant, un pénalty raté en deux temps par le FC Metz et un très joli maillot Grenard. Voilà le résumé que je te propose.
Merci, c'est parfait. À tout à l'heure. On retourne à Bonal, parce que de toute façon, c'est là où il fallait être. Il y a 3-0. On a failli voir un quatrième but stéphanois et dans la foulée, Sochaux qui a essayé de réagir. Donc, il y a du spectacle chez toi.
Ah oui, non, mais moi, je suis pas la Fashion Week. Hein. Moi, je suis là pour faire du football, d'accord. On n'est pas là pour parler chiffon. Effectivement, Irvine Cardona qui s'est retrouvé sur la ligne des 6 mètres avec une fin de frappe du pied gauche. Il fait le petit crochet derrière sa jambe d'appui. On a pensé que Mehdi Jana pouvait être pris et il a réussi, le gardien, à se rejeter dans ses pieds pour prendre ce ballon et ne pas encaisser ce quatrième but qui avait l'air tout fait. Et dans l'autre sens, enfin une belle construction, envie de dire, côté droit sochalien, avec un joli jeu à une touche de balle, puis remise, 1-2, et puis Nomel qui se présente, il est à l'angle des 16 mètres, il envoie une belle frappe. Une partie du public a pensé qu'il y avait but, mais c'était bien à l'extérieur, petit filet extérieur. Voilà, comme quoi ces sochaliens sont aussi capables de mettre en difficulté Saint-Etienne, mais pour l'instant c'est très solide, trop solide pour ces Sochaliens. On est dans le temps additionnel, on en raison toujours à 3-0. Je vous rappelle rapidement les buteurs, hein. Brohm 22e, Cardona 24e, Cardona 28e. Ce ballon là-bas qui va être contré mais récupéré par les Sochaliens avec Lobry qui va tourner. Je trouve que son entente est encore assez moyenne, hein, avec Julien Masson. Il se marche parfois un petit peu sur les pieds, parfois un petit peu loin l'un de l'autre, ça combine assez peu, hein, sur le double pivot, mais c'est des choses qui doivent se régler. Allez, Bagdadi, il est passé là-bas sur le côté gauche, il va repiquer intérieur, la passe elle est superbe sur le côté droit, est-ce qu'il va l'avoir Gomis? Oui, le centre, et ça sera dans les bras de Gauthier Larsonneur. Elle était superbe là, cette passe de Bagdadi. Il avait bien vu là, le petit trou là, dans la défense pour son arrière latéral qui était monté là. Et ce ballon, malheureusement, ensuite le centre était pas bon du tout, à ras de terre et sans puissance. Trop facile pour Gauthier Larsonneur, alors qu'il y avait du monde au milieu, évidemment. Djoko qui attendait cette offrande, mais il aurait fallu donner un centre un petit peu plus puissant. Et l'arbitre qui est en train de regarder un petit peu, c'est Tiffany Le Pronome là, qui arbitre ce soir. Et ce ballon dans les pieds des Stéphanois, on va temporiser un petit peu, on va faire tourner un petit peu ce ballon et attendre que la mi-temps soit sifflée sur cette pelouse. C'est la dernière, hein, je crois. Je pense que c'est terminé partout ailleurs. C'est vrai qu'on a commencé avec quelques petites secondes de retard. Il y a eu la pause fraîcheur qu'il n'y a pas forcément eu ailleurs sur les autres pelouses. J'ai pas entendu en tout cas mes collègues en parler. Et puis la blessure tout à l'heure de Gauthier Larsonneur. Attention, le ballon dans la profondeur, il est super vers ballon, mais ce sera un chouïa trop long et ce sera dans les bras de Mehdi Jana.
On va te quitter quelques secondes. Antoine, tu nous fais un point sur tes 5 matchs ?
Exactement. Et bien Dunkerque-Grenoble, c'est la pause. De toute façon, sur tous les terrains, un partout entre Dunkerque et Grenoble. Ouverture du score à la 21e minute de jeu de Dunkerque par Victor Mayela. Mais égalisation juste avant la pause de Yadali Diaby. Rodez-Laval, 0-0 à la pause également. Avec Laval qui est réduit à 10, par contre, suite à un carton rouge à la 19e minute de Sidi Bané. Montpellier-Dijon, 0-0. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans cette première période. Idem à Boulogne, entre Boulogne et Nancy, 0-0. Et Pau qui est mené sur sa pelouse par Annecy suite à un but d'Axel Drouin, mais les Annéciens sont à 10 suite à un carton rouge reçu à la 16e minute de jeu par Clément Bigmaz.
Merci beaucoup Antoine, on revient te voir juste après la pause. On retourne à Bonal, c'est là où il y a le spectacle, c'est là où il faut être ce soir et c'est là où ça joue encore.
Ouais, ça joue encore et puis ça se frictionne encore entre Ferreira et Gomel. Gomel qui était passé, Ferreira qui l'accroche un peu et Gomel qui repousse avec les qui le repousse des deux bras. Voilà, on se tape dans la main. Monsieur l'arbitre qui a demandé voilà, est-ce que les deux joueurs viennent et se détendent et se calment un petit peu. 3-0, hein, on le rappelle, en faveur des Verts. Ce début de match qui avait été, je dirais pas à l'avantage de Sochaux, mais disons qu'ils étaient bien dans leur rencontre, ces Sochaliens, jusqu'à une pause fraîcheur à la 18e minute et derrière, eh bien, le recadrage de Yann Catreux. Et voilà, la mi-temps sifflé à l'instant. Et donc, cette pause fraîcheur qui a coupé les jambes complètement, dans l'impression des Sochaliens tout à l'heure et qui ont pris 3 buts dans la foulée. 22e, 24e, 28e. 3-0 à la mi-temps en faveur de Saint-Etienne ici à Sochaux.